Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Masterchef.
C'est la quiche de votre vie.
Une émission où les candidats cuisinent et se font défoncer par un jury qui se la pète.
Le Palmachot, c'est ce tandem d'humoristes qui a parodié la télé jusqu'à plus soif, c'est-à-dire qui a pastiché toutes les émissions cultes du petit écran, mais aussi leurs idoles, mais aussi leurs coulisses, mais aussi leurs groupies, mais aussi eux-mêmes,
oui,
duo en promo, invités dans ces émissions qu'ils nourrissent et qui les nourrissent. À partir de cette matière télévisuelle, le Palmachot a fait beaucoup de télévision, donc ils font là du cinéma. Leur deuxième long-métrage sort en salle mercredi et campe l'histoire de deux pauvres gars qui tentent une revanche sur la vie grâce aux jeux télé, l'espace cathodique par excellence où défilent des Français de tous les âges et de tous les milieux. Bref, de l'animateur tout puissant aux promesses de gains mirobolants, il y avait de quoi nourrir la comédie et raconter sans doute quelque chose de bien plus profond que la télévision, l'estime de soi dans le regard des autres.
L'instant M, Sonia De Villers sur France Inter.
Puis alors, ensuite, il va y avoir les questions pièges.
Bah
ça,
oui,
c'est sûr, on va se faire niquer.
Niqué.
Donc c'est une histoire qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, c'est une manière de traiter les conflits actuels. Vous pensez quoi de Daesh ? C'est une histoire qui se déroule pendant 4 années, avec des rebondissements, des péripéties, des actions, des rencontres. Vous êtes Charlie ? Et donc c'est un film qui sort le 2 novembre. Israël ou Palestine ?
Bonjour le Palmachot.
Bonjour.
Éric Zemmour ou Marine Le Pen ?
Et alors, comment allez-vous ? On est très contents d'être là. Quoi que cela dit, ce serait facile de répondre à cette question.
Allez-y si vous voulez.
Alors là, je te laisse complètement te débrouiller avec ça. Là,
non, mais moi, je garde tout ça pour moi. J'ai mon petit jardin secret.
Alors, ils ont des noms, des vrais, des prénoms et des noms de famille. David Marcel, bonjour.
Bonjour.
Grégoire Ludig, bonjour.
Bonjour.
Votre film s'intitule Les Vedettes. Il sera en salle mercredi prochain. Il est réalisé par votre complice de toujours qui s'appelle Jonathan Barré. J'aimerais qu'on reparte de cette matière que vous adorez et que vous avez si bien triturée, le programme télé.
Sur la 3, des racines et des plumes.
Ce soir, je vous emmène dans le Loir-et-Cher, visiter le château de Chambord pour la 85e fois consécutive dans notre émission. Peut-être ont-ils changé un truc ? Les douves ? J'espère. On est marre.
Sur Canal, votre soirée foot.
Je suis avec Diego là. Oh Diego, tu as fait un super match. Tu es entré, tu passais par entrée. Hein. Le président, il t'aime bien. Tout le monde est ici, il t'aime bien. Moi, mon fils, il t'aime bien. Mi corazón te gusta. How was the feeling of the game, of the match? Que te pensa?
Quoi?
Voilà, en tous les cas, on te le souhaite, Diego. Hein. Toi, tu es un bon gars, tu es super. Allez, ciao.
Sur la 6, appart à vendre avec Stéphanie Piss.
Le lit pour faire du sport en chambre, si vous voyez ce que je veux dire.
Et alors, ce qui est passionnant, le Palmachot, ce qui est passionnant avec l'histoire de la parodie télé, parce que vous n'êtes pas les premiers à faire de la parodie dernier, peut-être que vous êtes les derniers, on va en reparler, mais ce qui est passionnant, c'est que la télévision, c'est évidemment un référentiel commun. C'est-à-dire, c'est une sorte de lien, c'est ancré dans notre mémoire collective, et vous, ça vous permet, c'est un terrain de comédie absolument génial, parce que, évidemment, tout le monde s'y retrouve. Tout le monde s'y reconnaît.
Exactement. Ouais. Nous, on a été nourris à ça. On a été nourris à la télé. On est né dans les années 80. Donc, on a grandi dans les années 90. On a mangé vraiment de tous les programmes télé qui existent. Et je pense qu'on se réfère beaucoup aux inconnus à l'époque qui, eux, faisaient exactement la même chose. Enfin, nous, on essaie plutôt de faire perdurer leur esprit. Et on trouve que c'est tellement vaste. Il y a tellement, en plus, de plus en plus de choses à la télé, des choses qu'on n'attend pas et des choses qui nous surprennent, qu'on se dit, il y a quand même un beau terrain de jeu pour faire pas mal
David
de parodies.
David Marseille, à la télé, parce que la vraie question, c'est combien de temps on va pouvoir continuer à parodier la télé? J'ai deux gamins qui ont 15 et 17 ans, qui ne la regardent pas, qui découvrent Masterchef parce que Masterchef se balade sur YouTube, en réalité. Ils n'allument pas du tout l'écran au milieu du salon, si ce n'est pour brancher une PlayStation. Donc, combien de temps est-ce que les programmes télé vont rester un référentiel commun, à votre avis, David
Marseille? Je pense qu'ils vont rester... Je crois qu'effectivement, les programmes télé vont se déplacer en fonction des supports, que ce soit sur les plateformes ou... d'ailleurs, ça se voit, il y a même carrément des émissions télé qui commencent à se faire sur Amazon Prime ou sur Netflix. Donc, je crois que ça restera. En tout cas, le format de flux va continuer à exister. Ça nous laisse encore quelques années de travail, j'espère.
Yes. C'est ça. Parce que, on se posait la question si demain, si ce week-end, on devait organiser une fête déguisée, par exemple, et que le thème, ce serait venez habiller en votre personnage de série préféré.
D'accord,
oui. Et on se disait, il y a 25 ans, c'était hyper facile. Tout le monde se reconnaîtrait les uns les autres. Et là, aujourd'hui, dans les 400 séries qui sont sorties cette année, c'est extrêmement difficile.
On va faire une grosse fête, en tout cas. On va faire vraiment une énorme fête.
Et surtout, je suis pas sûre de savoir en quoi vous venez habiller, par exemple, Grégoire Ludic, parce qu'il y a peu de chances qu'on regarde la même série, tout simplement.
C'est pas faux. Alors moi, en plus, je suis un peu le mauvais exemple, parce que je regarde très peu de séries, mais c'est vrai que... On a tendance maintenant à aller fouiner un peu sur les plateformes. Et avec tout ce que les plateformes proposent, c'est sûr que vous venez déguisé en quelque chose. Je pense que à 100%, je ne saurais pas de toute façon qui vous êtes. C'est vaste. Il y en a qui arrivent tous les jours. Et puis ça traite de sujets divers et variés. Enfin, vraiment, c'est... Chaque jour, il y a de nouvelles choses. Donc, c'est difficile de s'y retrouver, c'est vrai. Mais nous, on aime ce point de départ, en tout cas, de télé. Oui. Ouais. Et c'est vrai que nous, quand on parodie une émission de télé, on essaie de pas parodier des choses, des faits de société ou des... Nous, on aime faire des choses pérennes. Ouais. On parodie une mécanique et on essaye d'installer quelque chose que tout le monde connaît, dans lequel tout le monde peut se retrouver, pour ne pas cliver.
Oui, dans l'inconscient collectif. Exactement.
C'est ça. Voilà. Parce que même si on n'a jamais regardé Voyage en Terre Inconnue, en fait, l'animateur de Voyage Inconnue, il dit quelque chose à tout le monde.
On est en Mongolie, là.
Eh oui.
T'es ému?
Oui.
Tu peux pleurer si t'es ému, Patrick. N'hésite pas, on va rencontrer des belles personnes. Nous voici avec Patrick sur les terres mongoliennes. Il est déjà ému et a envie de pleurer.
Pof, 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 pof.
C'est marrant ce petit jeu chez Mongol, là.
Tu ris, Patrick, c'est beau. Mais tu peux pleurer aussi, hein. Tu découvres une nouvelle culture.
La première journée est terminée et elle a été riche en émotions. Je sens que Patrick est content d'être là. Nous sommes ensemble et nous commençons à tisser des liens forts, très très forts.
Et voilà, et c'est pas Voyage en Terre Inconnue, c'est Rendez-vous en Terre Inconnue.
Oui, mais on voyage.
La preuve que je reconnais quelque chose que moi-même je ne regarde pas tellement c'est incrusté. J'en viens à ce personnage d'animateur parce que, évidemment, dans les vedettes, il y a un animateur
Fred
de
Costa.
Jeu, Fred Costa, qui est central dans les personnages que vous campez. Alors, des parodies d'animateurs télé, il y en a eu des centaines au cinéma. Évidemment, il y a toute une tradition du sketch télé, mais il y a aussi des centaines au cinéma. Il y a eu plein de films américains, il y a eu des films français aussi. Et moi, je me suis demandé, en fait, dans quoi vous puisez tous les deux. Vous puisez dans les animateurs de la vraie télévision ou vous puisez dans toute une tradition du cinéma qui les parodie depuis longtemps?
Je crois qu'on s'est plutôt inspiré de la télévision pour le coup, même si on ne sait pas identifier un animateur en particulier. Je pense que c'était un peu un mélange de pas mal de choses. L'animateur qui a plusieurs jeux en même temps,
Genre de Nagui par exemple, qui aurait un jeu du midi et un jeu où on fait chanter le soir.
Mais pour le coup, enfin, c'était pas non plus Nagui. On s'est jamais dit tiens, on va faire Nagui. Je sais pas. Je crois que pareil encore, c'était un truc dans l'inconscient collectif. On s'est imaginé cet animateur un peu sur le déclin, qui continue à espérer.
On a voulu lui donner lui aussi ce besoin de reconnaissance parce que lui aussi se rend compte qu'il arrive à un certain âge où il faut quand même qu'il reste en place. Donc lui aussi a besoin d'exister, a besoin de ses petits moments de gloire, quitte à en écraser les autres.
Ce qui signifie que quand on pastiche, en réalité, on ouvre une sorte de faille dans laquelle on glisse beaucoup de choses.
Un peu notre méthode de travail.
Oui, exactement. C'est-à-dire on a un archétype.
Exactement.
Et ensuite on lui injecte.
On lui
tout
fait quelques injections,
dans la seringue.
On peut parler d'injections,
on peut parler de ça.
C'est ça. Alors, extrait du film où l'un des deux personnages, évidemment, en a trop dit sur son petit passe-temps favori. Et évidemment, l'animateur en profite.
Bonjour Daniel, comment ça va Daniel?
Ça va super Fred.
Ça va bien? On me dit que vous chantez.
Ah ouais, mais non, ça j'ai arrêté ça.
Vous allez quand même nous chanter une petite chanson Daniel.
Non.
Le public, Daniel va nous chanter une petite chanson.
Allez, montrez-nous.
On vous écoute.
Chanter pour les gens qui sont seuls, pour bercer un enfant. Chanter pour pouvoir dire je t'aime et chanter tout le temps.
Merci Daniel, quel beau bras.
En haut les barricades, les pieds et poings liés, couvrant les fusillades.
Ça monte un peu là.
Ça.
Il a une voix de cristal.
Ça nous a fait notre journée hier, extrait des vedettes, donc votre film à tous les deux. Comment on fabrique un bon faux candidat télé?
Candidat sincère.
Un candidat sincère.
À partir du moment où il a une sincérité et une naïveté, nous, en tout cas, ça nous a fait rire. Après, on peut se poser la question, alors qu'est-ce qu'un bon ou un mauvais candidat télé ? Mais nous, on voulait qu'il soit sincère, on voulait que ce soit premier degré. On n'avait pas envie de se moquer, on voulait pas rire des personnages, on voulait rire avec eux, en fait.
Vous en avez regardé beaucoup, des candidats de télé, David Marsay ?
On en a regardé quelques-uns, ouais. Ouais, c'est vrai. Mais pour le coup, ce personnage de Grégoire, là, Daniel, est plutôt façonné un peu comme on peut faire dans le Palma Show. C'est comme il disait tout à l'heure, c'est souvent des personnages qui ont des gros complexes de supériorité et une énorme naïveté. Et on trouve qu'avec la naïveté, justement, à travers ça, on peut parler justement des travers de la société, notamment ce besoin de reconnaissance qui est vraiment le sujet du film.
Et qui est totalement le sujet du film, parce que c'est vraiment dis-moi qui je suis quand tu me regardes, et où est-ce que tu me places dans la hiérarchie sociale, d'où la confrontation extrêmement douloureuse avec la production télé, d'où la confrontation extrêmement douloureuse avec toute la machine télévisuelle en général. Mais nous, on trouvait que vous aviez chopé un petit truc extrêmement juste, c'est-à-dire que les candidats des jeux, on voit bien qu'ils adorent ça, qu'ils connaissent les codes et les règles par cœur, qu'ils vont de plateau de jeux télé en plateau. Mais qu'une fois qu'ils sont sur le plateau, il y a toujours un petit truc qui fait qu'ils sont mal à l'aise.
Mais oui, peut-être qu'ils s'attendent pas à ce qu'ils pouvaient s'imaginer, je crois. Finalement, toi, tu avais rencontré, il me semble, quelqu'un justement qui nous avait inspiré pour l'écriture.
Oui, tout à fait. Mais en fait, c'est quelqu'un qui s'est pris au jeu, qui nous avait raconté que la personne s'était inscrite à une émission télé, vraiment pour y aller, vraiment pour s'amuser, pour de manière un petit peu, elle voulait. C'était quelque chose qui l'intriguait un peu, donc elle y a été. Et en fait, elle s'est prise au jeu. Elle a gagné un peu de sous et elle s'est dit ok, mais il y a un moyen en fait de gagner un peu de l'argent facilement. Et plus elle s'inscrivait, plus elle gagnait un peu de sous, et en même temps elle se rendait compte qu'on disait par contre non mais enlève ce chemisier, on va mettre autre chose, ou alors mets un autre. Oui mais j'ai pris non mais
c'est ça qui est intéressant, je crois.
Donc on a pris ce point de départ.
C'est quand on devient de la chair humaine.
On est dépossédé au bout d'un moment de son identité.
Et après on a caricaturé tout ça, évidemment.
Ouais. Alors autre extrait du film, c'est-à-dire la prod. Donc là c'est vraiment le cynisme.
Les méchants.
Les méchants, la production télé. Encore une grosse caricature de producteur télé. Un jour ils vont monter en disant soyez gentils avec nous.
On va se prendre quelques claques. Ouais.
Bon, vous avez des idées ?
Oui. Alors, dans Midi à sa porte, ils ont un candidat qui a le syndrome d'Asperger. Ça touche tout le monde et ils font des audiences de malades. Du coup, avec FX, on s'est dit des trisos.
Comme au Téléthon.
Vous avez autre chose ?
Du coup, on annule parce que moi j'avais la sœur.
Ouais, on annule, ouais. Il y a un truc qu'on n'a jamais fait, ça serait d'avoir des candidats atypiques. Des originaux un peu naïfs.
Des neuneux ?
Non. Des gens qui n'ont pas de recul.
Ah mais ça on a à fond ça.
Ben voilà. Employé du mois, le Johnny Depp d'Orléans, super.
Voilà, le Palma Show. Vous n'avez jamais parodié le cinéma sans parodier les coulisses du cinéma. Vous n'avez jamais parodié la télé sans parodier les coulisses de la télévision. En fait, c'est un tout qui vous intéresse, que Les Inconnus faisaient assez peu en réalité.
Ah oui, c'est très juste, hein, j'avais jamais pensé à ça. On aime bien l'envers du décor, mais peut-être qu'on a tellement parlé justement de la façade que ça nous intéressait de parler en fait du rouage total. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a essayé de faire dans le film, notamment sur la scène du prix à tout prix, où il y a ces effets de caméra un peu, où on passe entre le 16-9e et la fiction. On trouvait ça intéressant justement, pour une fois, de raconter en simultané ce qui peut se passer dans la réalité et à la télé.
Et par ailleurs, il n'y a plus aucun mystère, c'est-à-dire que c'est des coulisses qui ont été archi dévoilées, c'est des mécaniques que tout le monde connaît, c'est un petit jeu, c'est des cuisines qui nous sont hyper familières, plus rien ne nous surprend.
Et puis à l'ère du web, en plus, l'ère du making-of où tout le monde peut filmer avec son portable, je pense qu'il y a une part de mystère qui a complètement disparu.
Totalement.
Donc dans l'inconscient des gens, ça fonctionne aussi, quoi, de parler des coulisses. Je pense qu'avant, d'ailleurs, on nous le disait, attention de ne pas parler trop du métier.
Oui, les gens s'en foutent.
Les gens s'en foutent et ça ne leur parle pas. Mais je crois que ça a changé.
Complètement changé. Et vos deux personnages, c'est l'histoire de deux gars qui n'ont aucune conscience d'eux-mêmes, vous le disiez, aucun recul. Et je me suis demandé si ce n'était pas la définition même du bon personnage de comédie, c'est-à-dire un individu, quel que soit son âge, quelle que soit sa fonction sociale ou son origine, qui n'a aucun recul. C'est-à-dire OSS 117 n'a aucun recul sur lui-même. Le grand blond de Pierre Richard n'a aucun recul. Tous les personnages des bronzés ou tous les membres de la famille Tuche n'ont aucun recul.
Mais on aime ça, on aime partir de personnages, pardon, de personnages avec des défauts, parce qu'on trouve que raconter une comédie avec des personnages pour qui tout roule, qui vont très bien, qui n'ont aucun problème, il n'y a pas matière à rigoler. Alors que des personnages avec des défauts, des personnages arrogants, des personnages... Regardez Louis de Funès, par exemple. Ouais, il est colérique, il est absolument horrible, mais on l'adore. Dans Les Trois Frères, Didier Bourdon met des caméras de surveillance dans les cabines d'essayage des femmes pour les voir à poil en train de se déshabiller. C'est horrible.
Donc il n'a aucune conscience de ce qu'il fait lui-même. C'est ça.
Et nous, on aime ce côté naïf, ce côté premier degré. Et du coup, ça les rend attachants. On les aime bien, au final, ces personnages.
Donc c'est faire une comédie, c'est faire du second degré sur quelqu'un qui est toujours au premier degré ?
Pas, non, pas toujours, y a... je pense.
Vous avez 4 heures.
Ouais. Non, mais je crois pas. Je crois surtout qu'on part de personnages. Nous, ça nous fait rire. Quand, dans le film, sans rien dévoiler, je trouve que quelqu'un qui montre qu'il a un nouveau canapé électrique et qui met 4 heures avant que le canapé se déploie complètement et qui regarde la personne dans les yeux en disant hey, « t'as vu ce que j'ai un peu, mon pote ?» Ça, on l'explique pas, ça nous fait rire. Et après, on part de ce genre de choses qui parlent à tout le monde pour écrire nos personnages.
Alors, vous disiez tout à l'heure, Grégoire Ludic, que ça rend les personnages attachants. À quoi ça sert la mélancolie dans les comédies ?
C'est-à-dire, à quoi sert la mélancolie ?
Bah, en fait, on a l'impression que les personnages, ils font toujours rire, jusqu'au moment où on sent qu'ils ont mal pour de vrai.
Parce que je pense qu'ils sont humains et que ça nous renvoie à nous, à notre vie à nous, qu'on a tous envie de rire de plein de choses, mais qu'il y a des moments où on... Quand bien même on vit des situations... Enfin, je pense qu'on vit tous quelques fractures, quelques fêlures, et il faut on le met aussi dans la comédie. On n'est pas obligé de faire que du gag tout le temps à 100% pour parler de comédie.
Et comment on le calibre, justement, le bon personnage de comédie ou le bon tandem de comédie ? Comment on le calibre entre, justement, la machine à gag, hein, qui est dans le burlesque en permanence, puisque vous utilisez beaucoup le corps, hein, vous allez jusqu'à lui coincer la tête dans des portes coulissantes qui lui explosent les tempes.
Je crois que c'est un principe qu'on avait déjà dans Very Bad Blagues, c'est-à-dire qu'on prend des situations qui existent, des situations que tout le monde connaît, et au final, on se dit, qu'est-ce qui serait marrant ? Qu'est-ce qui pourrait se passer à ce moment-là qui serait drôle et qui changerait un peu de l'ordinaire ? En fait, on part vraiment de postulats à chaque fois, des choses qui peuvent vraiment arriver. Et on caricature, on décale tout ça. Et je pense qu'on part vraiment de faits qui existent, en fait.
Mais il y a aussi un travail qui appartient à Jonathan Barré.
C'est votre réalisateur.
Voilà, exactement. On est souvent sur le fil entre la parodie et le réalisme. Et je pense que c'est vraiment ce chemin de crête. Que Jonathan définit, ou par moment il va nous dire attention, là c'est trop, ou attention, là c'est pas assez. Mais en tout cas, pour revenir à la mécanique, justement, typiquement dans ce film, ça nous amusait d'utiliser un peu les codes de Weber, où un personnage va se servir d'un autre personnage, un plus intelligent que l'autre.
Qui se pense plus intelligent que l'autre.
Et ce qui nous intéressait, c'était justement à un certain point de se rendre compte que cette personne censée être intelligente est tout aussi bête.
Merci beaucoup. Le Palmacho, Les Vedettes sort en salle la semaine prochaine. La cruauté des jeux télé. Vous allez voir à quel point il y a de l'humain et à quel point il y a du cynisme sur les plateaux de tous ces gens que j'invite régulièrement.
Ça reste une comédie.
Ça reste drôle.
Micro. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Tous les deux. C'est la fin de l'émission. Bonjour Ali Rebey.
Bonjour Sena de Villers. Est-ce que vous êtes une adepte de la cuisine japonaise ?
Ben...
Dites oui, hein.
Oui.
Oui, voilà. Aussi, donc ce matin,
eux aussi ils disent aussi, le palmacho. Voilà,
on s'intéresse ce matin.
Moi, je voudrais bien que vous veniez pasticher les passages d'antenne comme un
fiche. Et nous, votre plateau, là.
Ali Rebeki tous les matins.
Bah, on va venir.
Venez prendre des notes.
Et ce matin, on s'intéresse aux bienfaits de la cuisine japonaise. On s'intéressera notamment au régime Okinawa, cher au centenaire de cet archipel. N'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000.
C'est ça. Et quand le palmacho fera une parodie de Grand Bien Vous Fasse et de ces sujets, vous rigolerez moins.
Avec plaisir.